Bonjour. Dans ce podcast, on va parler mariage, monogamie,
hétéronormativité.
En prenant comme objet de départ de nos réflexions, la bague de mariage.
Plus précisément, on va aborder le mariage dans nos sociétés contemporaines et occidentales comme une institution qui participe à la production et au maintien d'un système genré et hétéronormatif.
Selon Judith Butler, dans son fameux ouvrage « Troubles dans le genre », l'hétéronormativité est définie comme un système de genre asymétrique et binaire qui tolère deux et seulement deux sexes, où le genre concorde parfaitement avec le sexe et où l'hétérosexualité reproductive est obligatoire, ou en tout cas désirable et convenable.
Rappelons que tout point de vue est situé. Il est donc important de savoir qui parle. Nous sommes trois jeunes femmes blanches, cisgenres, hétérosexuelles ou bisexuelles et étudiantes en anthropologie. Salomé,
Lara
et Mathilda.
Aucune de nous n'est mariée et le mariage n'est pas dans nos objectifs de vie a priori.
Mais pourquoi ils ne se sont pas mariés s'ils sont amoureux ?
Pour pouvoir se marier en Suisse auprès de l'office de l'État, il faut remplir la condition d'être de sexe différent et il ne faut pas être lié ou marié au préalable avec un ou une autre partenaire. Il est donc explicitement exigé au niveau institutionnel que tout mariage soit hétérosexuel et monogame. Même si d'autres formes de contrats peuvent lier deux personnes, comme le pacs ou le concubinage par exemple, ces formes d'union ne sont pas reconnues comme des mariages à proprement parler, ce qui peut participer à des représentations marginales de ces couples au sein de la société.
Le mariage peut être un argument en faveur du refoulement des populations migrantes par les sociétés d'implantation. La globalisation, en permettant une domination de certaines cultures sur d'autres à travers notamment les droits de l'humain, place le mariage en outil de hiérarchisation ethno-culturelle. Les femmes se retrouvent d'ailleurs en première ligne pour ce type d'argument politique. Notamment les femmes musulmanes sont perçues et représentées comme des victimes au sein du mariage non occidental. Elles sont vues alors comme ne partageant pas les mêmes valeurs que celles de la culture occidentale, qui est elle jugée comme égalitaire en termes de genre. Cette hiérarchisation entre le mariage occidental et les autres types de mariage permet par extension une hiérarchie entre les cultures et les ethnies. Donc, en comprenant le mariage chrétien comme la seule union valide et valable dans l'espace public, on participe à perpétuer les représentations hiérarchiques entre ethnies, et ça devient un argument en faveur du racisme, de l'islamophobie et du nationalisme.
Est-ce qu'il y a une définition universelle du mariage ?
Non, il n'y a pas de définition commune et globale du mariage. Il n'est pas forcément toujours monogame, ni toujours forcément hétérosexuel, bien que sa définition se base la plupart du temps sur ces critères. À l'origine, ça représentait l'idée d'alliance entre des groupes sociaux et donc à long terme avec une descendance commune pour éviter la guerre entre ces clans. Actuellement, dans la société occidentale, quand on parle de mariage, on pense inévitablement à une habitation commune et à l'éducation des enfants d'un couple hétérosexuel, se jurant fidélité et amour éternel.
Jusqu'à ce que la mort vous sépare.
Ces idéaux découlent du patriarcat et de la religion chrétienne dans une idée de reconnaissance publique au niveau spirituel et ou étatique. Ils permettent la légitimité de la descendance, la création d'un patrimoine commun et de cristalliser les rôles de genre. À présent, fonder une famille en ayant des enfants n'est pas une obligation, même si ça reste la suite logique au mariage dans l'imaginaire collectif. Au-delà de l'imaginaire collectif, à un niveau juridique et administratif, la procréation médicalement assistée et l'adoption sont beaucoup plus accessibles aux couples hétérosexuels mariés.
C'est quoi le mariage ?
En fait, il y a deux personnes, soit une fille et une fille ensemble. Elles se marient, mais elles vont pas avoir d'enfants, mais elles peuvent aller à quelque part où il y a des enfants abandonnés et elles peuvent en adopter un. Et il y a aussi des messieurs et des messieurs ensemble, ils peuvent se marier sans avoir d'enfants, mais ils peuvent aller dans un endroit, aller chercher un bébé et l'adopter. Et la femme et le monsieur, ils sont pas obligés d'être mariés, mais ils peuvent aller en chercher un et en adopter. Donc, et aussi, ils peuvent être mariés et avoir un bébé.
Dans son livre « Stepping off the relationship escalator », Amy Graham théorise l'idée d'escalator des relations. Un schéma qu'on intériorise depuis l'enfance, selon lequel un couple franchit un certain nombre d'étapes dans un certain ordre. D'abord, on emménage ensemble, ensuite on se marie, et après on fait des enfants. Sortir de ce schéma peut être jugé négativement, et revenir en arrière dans ces étapes est socialement considéré comme un échec. Globalement, il existe une réelle injonction au mariage. Nos amis, nos familles, nous souhaitent souvent de nous marier, dans l'idée que cette officialisation de l'union va nous apporter du bonheur.
C'est pour quand le mariage ?
Lui passer la bague.
Alors, il a fait sa demande ?
Cette injonction se reflète même dans notre vocabulaire pour parler du corps. L'anneau donnant son nom à l'annulaire, le doigt destiné à porter l'alliance. Adrienne Rich développe le concept d'hétérosexualité forcée ou hétérosexualité obligatoire. Selon elle, l'hétérosexualité n'est pas naturelle, ce n'est pas non plus une préférence, mais plutôt quelque chose qui nous est imposé par une société patriarcale qui nourrit la domination masculine. L'invisibilisation généralisée du lesbianisme en est pour elle la preuve. Les femmes sont donc socialisées à dépendre des hommes, aussi bien émotionnellement qu'économiquement. Le mariage vient alors cristalliser cette division hiérarchique homme-femme. Symboliquement, l'alliance représente la promesse d'un amour éternel. Sa forme circulaire représente l'infini et l'unité. Mais elle est aussi un moyen de matérialiser l'union et de la rendre publique. Elle marque le corps. C'est un élément visuel qui permet de déterminer qui est a priori indisponible dans le marché de l'amour et inaccessible sexuellement. Si les couples libres tentent à se démocratiser, dans le sens commun, amour va de pair avec exclusivité sexuelle. Passer la bague au doigt, geste qui peut d'ailleurs être compris comme une métaphore de la pénétration hétérosexuelle, signifie symboliquement sceller l'appartenance du corps à l'autre. Briser la fidélité est communément considéré comme un motif valable à la rupture ou au divorce.
Moi, je te reçois,
toi,
comme époux et te promets de rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie.
Donc mariage implique fidélité, exclusivité et monogamie ?
C'est un raccourci qu'on fait souvent dans le sens commun. Selon Brigitte Vassallo, autrice et féministe espagnole, on a aujourd'hui une définition faussée de la monogamie, confondue avec la notion d'exclusivité amoureuse. L'autrice propose alors de définir la monogamie non pas comme une pratique, mais comme un cadre de pensée, un système qui hiérarchise les différentes relations sociales en mettant la relation de couple au-dessus de toutes les autres. La psychologue et sexologue Romy Sigrist appuie cette idée. Elle écrit dans un article « Penser le couple de fils comme exclusif est une construction patriarcale, hiérarchisant les relations sur la base de la présence de liens de sang et ou de rapports sexuels. Le partenaire, si l'on devient parent, prend la place en haut de la pyramide, suivi par la famille élargie, puis les amis, les collègues, etc. Ce système hiérarchique fait que concrètement, quand on parle d'amour, on pense automatiquement et presque naturellement à l'amour romantique, et non pas à toutes les autres formes d'amour qui pourtant existent bien et sont présentes dans nos vies, comme l'amour amical ou l'amour familial par exemple. L'exclusivité serait alors plutôt une conséquence de cette monogamie institutionnalisée.
Est-ce qu'on peut vraiment aller à l'encontre de cette monogamie ? Il y a pourtant quelque chose de viscéral à la jalousie, au sentiment de tromperie.
Ces émotions qu'on ressent sont bien réelles, elles existent, mais elles sont aussi socialement construites. Toujours selon Brigitte Vassallo, la monogamie organise nos affections et nos émotions au niveau social. Ces émotions ne sont alors pas si naturelles que nous le pensons, elles viendraient d'un processus historique et appris. Le schéma traditionnel du couple monogame, hétérosexuel et marié nous est alors largement montré tout au long de notre vie comme LE modèle amoureux, désirable et valorisé par notre société. Pour illustrer son propos, elle donne l'exemple de la peur. Pourquoi est-ce que nous avons peur lorsque nous nous retrouvons dans un cimetière la nuit ? Pourquoi ressentir cette peur alors que concrètement, les morts ne sortent pas de leur tombe et les cimetières ne sont a priori pas des lieux dangereux ? Ce sont les représentations de cet endroit, dans les films, les histoires, qui contribuent à créer cette peur qui maintenant existe réellement et est présente chez beaucoup. S'il est normal de ressentir de la jalousie, c'est peut-être parce que la monogamie s'installe en Europe parallèlement au système capitaliste. Celui-ci s'appuie notamment sur les idées de famille nucléaire et de propriété privée pour se forger. Ces valeurs font écho avec l'idée d'exclusivité sexuelle comme moyen de posséder l'autre et la fidélité comme une preuve d'amour.
Mais du coup, la monogamie, c'est plutôt une affaire privée ou publique ?
Par le mariage, l'amour romantique entre dans la sphère publique et devient alors politique. Ce passage est fortement ritualisé, que ce soit lors de la demande ou de la cérémonie en soi, qui se font généralement dans la sphère publique. Le mariage dépasse l'intime, puisque traditionnellement, il marque l'union de deux familles et non pas simplement de deux individus. Cet acte est symboliquement et socialement fort. Il se traduit par exemple dans le changement de nom de famille de la femme, qui peut être compris comme un signe de l'appartenance de la femme à l'homme et à sa famille.
C'est madame ou mademoiselle ?
C'est la femme de...
Vous êtes venue sans autre mari.
La monogamie est politique aussi parce que, on l'a dit, elle s'ancre dans le système de pression de genre. Comme le mentionne Coral Herrera Gomez, une autrice et féministe espagnole, je cite, « La monogamie est une invention du patriarcat pour nous maintenir enfermés et occupés. La tromperie consiste à nous faire croire que l'adultère n'est pas la norme, mais une exception et que nous pouvons l'éviter en étant complaisantes avec nos maris, en obéissant aux normes, en satisfaisant tous leurs besoins et en évitant que d'autres femmes les approchent. » Finalement, Brigitte Vassallo rappelle à quel point la monogamie est un système producteur de violence, puisqu'il est, pour elle, directement lié au féminicide, aux violences conjugales, mais aussi aux impacts émotionnels, violents, des ruptures amoureuses.
Alliance, je deviens ta femme. Je vous prononce mari et femme.
Oui, je le veux.
Pour toujours.
Amour, fidélité.
Pour le meilleur et pour le pire.
Soutien.
Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais.
Pour se marier, il faut une dame et un mari qui sont amoureux ensemble. Et puis il faut aussi une dame qui dit « Est-ce que tu es amoureuse de ce garçon ?» Elle dit « Oui ou non ?» Donc là elle dit « Oui ». Est-ce que là, le garçon est amoureux ? Et là elle dit « Oui ». Donc ils se marient, tu vois, ok ? Tu vois ? Tu vois un petit peu ? Mais je sais pas encore si j'ai envie de me marier ou non. Je sais pas du tout encore. Je sais pas.
Mais que reste-t-il quand on s'écarte de la monogamie ? Si le couple libre et le polyamour sont des types de relations qui s'écartent de l'exclusivité, elles ne remettent pas forcément en cause le système monogame, selon lequel l'amour romantique se trouve au sommet de la pyramide des relations. On appelle anarchisme relationnel le fait de ne pas hiérarchiser ses relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou sexuelles. Il existe encore d'autres alternatives possibles. Déconstruire permet d'ouvrir la réflexion
et non pas de porter un jugement sur ce qu'est un bon ou un mauvais schéma de relation. Libre à chacun, chacune, de trouver alors celui qui lui conviendra.
Dans ce podcast, on a tenté de déconstruire et de remettre en perspective les notions de mariage, de monogamie et d'hétéronormativité.
On espère qu'il aura suscité des questions et des réflexions intéressantes.
Merci pour votre écoute.
Ce podcast a été écrit et conçu par Mathilda Flores, Lara Donati et Salomé Alvarez dans le cadre d'un séminaire donné par Nolwenn Buller à l'Université de Neuchâtel. Pour toute question, remarque ou si vous voulez nous faire des retours, vous pouvez nous écrire à l'adresse podcastlaruche@hotmail.com.